Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
20h14 avec un petit peu de retard, le club de la presse numérique. On parle ce soir de la guerre technologique entre les États-Unis et la Chine, la nouvelle guerre économique mondiale. Et nous sommes pour en débattre avec Gilles Fontaine, journaliste à Challenge, et Elisa Brown, journaliste au Figaro. Alors il y a deux semaines, le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé une nouvelle salve de taxes douanières visant des produits importés de Chine. Ces 200 milliards de taxes ont amené une réponse immédiate des autorités chinoises qui ont annoncé de nouveaux tarifs douaniers à hauteur de 60 milliards de dollars sur les importations américaines. Parmi les produits taxés, on trouve de nombreux composants qui permettent de faire tourner l'industrie tech américaine, comme le souligne un article paru dans le New York Times cette semaine. Et au-delà des taxes sur les importations, c'est une véritable guerre technologique qui a été déclarée entre les États-Unis et la Chine. Elisa Brown, pour commencer, vous avez publié cette semaine dans le Figaro un article détaillé sur cette tech war, cette guerre technologique, comme vous l'appelez. Quels en sont les enjeux ?
Alors les enjeux, ils sont, comme vous l'avez mentionné, a priori d'abord économiques. C'est vrai que les deux puissances luttent pour l'hégémonie dans ce domaine. Mais en fait, derrière, il y a tout un contexte géopolitique donc autour de la volonté de s'imposer en fait sur ce domaine-là.
Comment est-ce qu'on pourrait définir cette guerre, Gilles Fontaine, sachant que c'est une guerre qui oppose des grosses entreprises, d'abord pour commencer?
Alors, on voit deux géants capitalisme. Alors, c'est pas le même capitalisme, un capitalisme qu'on dirait que, enfin, avec une dictature éclairée derrière,
autoritaire
du côté de la Chine, et un vrai pragmatisme du côté effectivement des autorités chinoises qui, depuis Deng Xiaoping et 1986, sont clairement donné des grandes directions pour que une industrie chinoise technologique se crée, non seulement dans l'informatique et l'internet, mais aussi dans...
Et comment ces géants se sont créés, justement? Alors, ces géants qui s'appellent Baidu, Alibaba, qui s'appellent Tencent, qui s'appellent RenRen, Weibo...
Alors, vous avez bien appris la liste des alternatives.
Ce sont d'ailleurs des alternatives, des clones.
À Google,
c'est souvent
Facebook,
des copycats, comme on dit.
C'est exactement ça, parce que quand on parle de pragmatisme, les Chinois ont appris en regardant, en observant, en laissant rentrer, parce que Google est rentré en Chine dès 2000 et a commencé. Les Chinois ont regardé comment fonctionnait leur moteur de recherche et ont finalement commencé à développer leurs propres
qui
algorithmes.
Qui s'appelle Baidu, le leur, qui est l'équivalent. Et puis ils ont interdit Google. Voilà.
Et puis ils ont interdit Google. Et puis ils ont créé Tencent, et puis Facebook ne rentre plus, ou essaye de rentrer puisqu'ils viennent de créer une filiale à Hangzhou, là, cet été.
On leur souhaite... L'équivalent de Facebook, c'est RenRen, ou c'est aussi WeChat dans la partie plutôt Messenger. L'équivalent de Twitter, c'est Weibo. Bref, ils ont fait des copies de ces sites.
Ce sont des copycats. Et quand on voit que Google aujourd'hui, qui en principe ne peut pas trop fonctionner en Chine, enfin, ils ont une part de marché ridicule de 1%, alors que en France ou aux États-Unis, elle oscille entre 80 et 95%.
Elisa Brown, sur ces copycats, sur cette industrie, comment ils sont construits, les Chinois?
C'est vrai qu'on a donc toutes ces entreprises comme Baidu, Alibaba, qui en fait.
Il y a une sorte de, au fond, c'est du semi-étatique. On est sur des entreprises, mais en même temps, ces entreprises sont, elles développent aussi des outils qui sont parfois en concurrence entre elles. Donc c'est un capitalisme quand même.
Mais c'est vrai que c'est très difficile en Chine de distinguer ce qui relève du privé et du public. Derrière les grands fonds d'investissement, on retrouve toujours un petit peu l'État chinois.
Vous parleriez de semi-étatique, vous, par exemple, quelque chose comme ça?
Oui, l'expression ne me paraît pas usurpée.
Avec des régulations qui leur sont très favorables.
Moi, j'irais encore plus loin. C'est l'État chinois a quand même été derrière la création de chacune de ces entreprises, que ce soit du côté du côté internet, du côté donc les fameux Baidu, les grands portails, etc., mais aussi du côté du matériel informatique, puisque des entreprises comme Lenovo dans le dans la fabrication d'ordinateurs ou Huawei dans les télécommunications ont été purement et simplement créés par l'État
donc
chinois.
C'est une bataille à la fois de soft, c'est-à-dire de logiciels, etc., mais aussi de hard, avec du matériel derrière.
Voilà, donc des deux côtés, de toute façon, à partir du moment où la Chine avait décidé de s'imposer dans ce domaine-là, tout a été mis en œuvre, toute la chaîne a été mise en œuvre pour que les choses réussissent. Il y a une marque que vous n'avez pas citée, parce que c'est pas vraiment une marque, c'est la plus grande usine du monde, hein, quand même, c'est Foxconn, qui fabrique non seulement l'iPhone, mais tout un tas d'autres produits.
Et qui est installé notamment hors de Chine, pour une part, mais...
Absolument, donc Foxconn a ses usines en Chine, et a également quelques usines, plusieurs usines à l'étranger, notamment en Europe, et travaille pour des groupes comme Apple, mais aussi comme Dell, donc le fameux fabricant d'informatique, que Dell a décidé de se débarrasser d'une partie de sa production, parce qu'ils n'étaient plus très compétitifs dans ce domaine-là, et la fabrication, mais aussi, d'une certaine manière, le savoir-faire part dans ces groupes chinois.
Alors, Lisa Brand, dans votre article du Figaro, vous évoquez cette guerre technologique, cette tech war. Comment est-ce qu'elle prend forme? Quels sont comment se joue la bataille et peut-être où elle va?
Alors cette bataille, il faut déjà peut-être remonter à ses origines. En 2016, donc la Chine vit ce qu'on pourrait qualifier d'un véritable moment Spoutnik. Elle se rend compte des avancées de la technologie américaine, notamment en matière d'intelligence artificielle, puisque on a donc la victoire d'AlphaGo contre le joueur coréen Lee Sedol au niveau du jeu de Go. Et là, vraiment, ça prend une ampleur particulière puisque ce jeu a une résonance culturelle très très importante en Chine. Et à partir de là, ça va accélérer les investissements sur le plan technologique, comme vous le mentionniez tout à l'heure. La Chine a veut depuis longtemps s'imposer dans le domaine technologique, mais c'est vraiment à partir de 2016 qu'on observe une accélération, notamment de moyens. Là, on parle actuellement d'entre 25 et 60 milliards de dollars investis par an. Alors, c'est toujours très difficile de tracer ces déclarations, de voir si elles sont
vraiment
suivies.
Comment vous avez fait d'ailleurs pour trouver ces chiffres? On se base sur quoi?
Alors, on se base sur les rapports du Pentagone américain qui sont extrêmement bien renseignés et qui suivent depuis de nombreuses années les investissements qui flèchent vers la Silicon Valley, mais aussi les déclarations des différents dirigeants.
C'est aussi, sur ce sujet, Gilles Fontaine, c'est aussi une bataille d'espionnage.
Mais oui, et là, je citais tout à l'heure Deng Xiaoping en 86, il était premier secrétaire du Parti communiste chinois et il a clairement donné la direction en disant...
Enrichissez-vous d'abord.
Oui, enrichissez-vous, exactement.
Ça, c'était la première étape.
Exactement, la première étape, et puis les moyens, en créant un programme. Ce programme, il s'appelle 863, ça ne veut pas dire grand-chose, sauf que c'est l'année 80,
code,
année 86, et 3, c'était le mois de mars. C'est à ce moment-là que Deng Xiaoping a lancé ce fameux programme en confiant cette mission à des chercheurs donc dans différents domaines, et notamment dans le domaine informatique, de se doter des moyens pour devenir un géant planétaire et réussir à tenir tête, notamment aux États-Unis. Et donc, il y avait des moyens tout à fait légaux et honorables, attirer les investissements étrangers dans ce domaine-là au pays. Et puis, c'est vrai qu'ils ont plutôt mieux que réussi, et puis des moyens un peu moins légaux quand on voit comment Cisco a dû se bagarrer. Donc Cisco, c'est un fabricant américain d'outils de télécommunication spécialisés dans Internet, justement. Cisco s'est fait piller sa propriété intellectuelle, littéralement. Il y a des tas de procès qui ont été engagés, et de là est né le géant Huawei qu'on citait tout à l'heure.
Un mot, Elisa Brand, sur l'intelligence artificielle dont vous voyez qu'elle est au cœur même d'un certain nombre de ces enjeux, de cette bataille mondiale technologique entre la Chine et les États-Unis.
Eh bien, c'est sûr que c'est dans ce domaine-là que se concentre le plus fort des investissements. On a aussi la voiture autonome, toutes ces technologies-là. Mais au niveau de l'intelligence artificielle, c'est vrai que c'est particulièrement crucial. Ben, en Chine, notamment, sur tout ce qui relève de la surveillance, on voit beaucoup toutes les licornes chinoises se développer, notamment autour de la reconnaissance faciale. Pour la Chine, c'est aussi un moyen de renouer avec la puissance de jadis. Ça permet plus de contrôle. Ça permet également d'anticiper l'avenir, et dans une économie dirigiste qui aime à anticiper les grands plans, on a Made in China 2025. c'est vrai que c'est quand même un avantage de maîtriser cette technologie-là.
Capitalisme dirigiste, on pourrait dire, sur la Chine, Gilles Fontaine. Comment est-ce que vous interprétez les intérêts des uns et des autres dans cette bataille commerciale? Qui peut gagner, qui peut perdre, Gilles Fontaine? Est-ce que Trump, c'est du parti de poker? Est-ce qu'il sait où il va? Est-ce que les Chinois savent comment réagir à ça? Ou est-ce que tout ça, c'est un peu inutile et que ça ne changera pas grand-chose?
Alors, avec Trump, on ne sait jamais trop où on va, mais il y a de vrais intérêts, de part et d'autre, de vrais intérêts commerciaux. Le problème de l'industrie américaine informatique, notamment, c'est que l'essentiel de leurs composants viennent de ces fameuses usines chinoises. Donc, c'est pour ça que Apple a vite fait d'aller convaincre l'administration américaine que les iPhones n'étaient pas forcément concernés par ces mesures de rétorsion américaines. Sur le volet Internet, là, c'est beaucoup plus simple, puisque l'Internet chinois est fermé. D'ailleurs, ils ont fait une expérience il y a deux ans, en 2016. Ils ont fermé l'Internet pendant...
Ça s'est très bien passé. Ils continuent en vase clos entre eux.
Il n'y avait aucun problème, ce qui prouve que voilà, le pays est totalement...
Il y a un peu des problèmes pour les entreprises internationales en Chine, il y a des problèmes pour les Chinois hors de Chine. Ce n'est pas si simple que ça, malgré tout. Mais...
Voilà.
Zoé Svez.
Mais justement, la théorie d'un penseur, disons, assez marxiste de l'Internet, qui est Evgeny Morozov, consistait à dire, finalement, la Chine, sous des arguments, avec des arguments autoritaristes, a quand même réussi à maintenir son marché et notamment à préserver ses données. Est-ce qu'on arrive à évaluer à quel point, dans cette bataille de la donnée, qui est au cœur de la bataille à venir sur l'intelligence artificielle, les Chinois sont vraiment plus forts que n'importe qui d'autre?
Ouais. Quelle longueur d'avance?
Dans l'exploitation de la donnée.
Dans l'exploitation de la donnée et dans la donnée qu'ils ont su, la souveraineté, cette fameuse question de la souveraineté de la donnée, c'est-à-dire qu'elle reste en Chine et qu'elle est peu disponible pour d'autres gens.
À partir du moment où, de toute façon, c'est un Internet qui est fermé avec des acteurs chinois à 99,37%, je peux dire à peu près.
Non, vous avez compté, le 0,37 est très important.
Il n'y a pas trop de soucis, donc ils ferment, effectivement, ils ferment leur marché.
Ce qui est quand même très contradictoire avec l'idée même d'Internet, mais bon.
Oui, mais en même temps...
C'est un avantage considérable par rapport à des Européens, par exemple.
Et puis, on peut dire que d'un point de vue usage, ils sont très, très en avance sur nous.
Comme ils ont copié les Américains, ils sont presque aussi rapides.
Ouais, mais il y a des technologies de paiement mobile, etc., qui sont extrêmement populaires en Chine. Ici, on est limité avec notre carte bleue à 20 ou 30 euros quand on veut faire le paiement sans contact. Là-bas, le paiement sans contact, c'est la reconnaissance faciale. Donc, effectivement, toutes ces données sont emmagasinées, exploitées et très bien utilisées. Mais c'est vrai que dans les usages, les chiffres du e-commerce sont absolument phénoménaux par rapport à ce qu'on voit, nous, ici, en Europe ou aux États-Unis.
Pour terminer, Elisa Brown, vous êtes journaliste au Figaro. Alors, nous, on a les grands méchants. Ça s'appelle les GAFA, les Google, Apple, Facebook, Amazon. Et alors, eux, ils ont les 8 guerriers gardien.
Oui, alors c'est vrai que je vous ai parlé de la façon dont les États-Unis observaient de près l'espionnage chinois sur leur propre territoire. Du côté de la Chine, on a aussi un magazine du Parti communiste chinois, donc, qui observe ces 8 guerriers gardiens que sont les entreprises comme...
Ce sont qui ?
Ce sont Apple, Intel, Cisco, qui selon ce magazine, ou IBM encore, qui ont pénétré trop profondément, je cite, sur le territoire chinois et qui sont désormais interdits.
Il faut s'en méfier.
Et donc il faut s'en méfier parfaitement. La Chine n'est pas tendre d'ailleurs avec les entreprises américaines. Elle rend d'ailleurs bien à Donald Trump la monnaie de sa pièce, puisque beaucoup d'entreprises américaines sont également bannies.
Voilà. Et puis en Chine, on parle des BAT aussi. C'est pas les GAFA, mais c'est les Baidu, Alibaba, Tencent. Et on parle même maintenant...
De Xiaomi.
Donc ça devient les BATS, c'est ça?
BATS,
hein, c'est compliqué. C'est un peu, c'est presque du chinois, on pourrait dire, d'autres façons. Merci infiniment à vous deux. Merci à Elisa Brand, journaliste au Figaro. Merci Gilles Fontaine, journaliste à Challenge. On en reste là pour ce soir. Pour aller plus loin sur les GAFA chinois, les BAT et les 8 guerriers gardiens, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur Twitter au mot-clé Soft Power et vous abonner au podcast de Soft Power sur notre site France Culture ainsi que sur iTunes et sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power.